Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Geek. On est ravis de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée au mythe de Cthulhu et à H.P. Lovecraft. La semaine dernière, on vous parlait d'astronomie, de l'espace, de la grandeur infinie de l'espace, et on vous disait en conclusion de l'émission qu'effectivement, c'était quelque chose qui avait à la fois inspiré et effrayé cet auteur que vous connaissez peut-être, qui est en tout cas un monument de la littérature geek, qui a inspiré beaucoup de grands auteurs que vous connaissez sans doute, notamment Stephen King, mais pas que. On va essayer avec Ludo et Marjorie de vous en dire un peu plus sur cet auteur, sur le mythe le plus célèbre de Lovecraft, qu'il n'appelait d'ailleurs pas de lui-même un mythe, le mythe de Cthulhu. Vous dire un petit peu son influence, quel personnage c'était, qu'est-ce que ses écrits ont porté comme fruit. Bien sûr, on retrouve Marjorie. Salut Marjorie.
Salut.
Et on retrouve également Ludovic. Salut Ludo.
Salut.
Alors, on va être très franc avec vous, aussi bien Marjorie que moi, on est loin d'être des spécialistes de Lovecraft. Mais on a de la chance, Ludo, sans être peut-être un spécialiste au sens universitaire du terme en tout cas, est un fan de Lovecraft, en tout cas a lu suffisamment de ses bouquins et voyagé dans suffisamment de ses récits pour pouvoir nous partager une expérience de l'intérieur. D'abord, on va commencer par cette question-là, Ludovic. Lovecraft, tu as découvert ces livres à quel âge ? J'espère pas trop jeune, parce qu'a priori, ça peut faire peur.
Non, c'est pour ça que je suis plutôt équilibré quand même comme garçon. J'ai découvert ça, je devais avoir 20, presque 25 ans, je crois, un truc comme ça. Et purement par hasard, parce qu'à force d'entendre, de lire des bouquins qui disaient « Ah, il est inspiré de Lovecraft, il est inspiré de Lovecraft », je me suis dit « Bah, je vais voir ce que c'est Lovecraft ».
Alors, si vous avez regardé la première émission qu'on a fait en podcast sur YouTube, une émission qui parle des zombies, on a cité Lovecraft dans cette émission parce que c'est l'un des inventeurs, en tout cas récents, effectivement, des zombies. Pas son premier bouquin, mais dans l'un des premiers ouvrages qu'il a pu écrire, où effectivement il parlait d'un docteur, d'un savant qui essaie de ressusciter les morts, et les morts se sont retournés contre lui, sans jamais forcément citer le terme de zombie. C'était parmi les premiers, si ce n'est les premiers zombies de la littérature geek. Pour vous en dire plus sur qui était Lovecraft, quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort, où est-ce qu'il a habité, qui étaient ses parents, ses grands-parents, qui étaient sa femme, qui étaient ses enfants, a-t-il eu des enfants d'ailleurs ? Tiens, c'est une excellente question, je crois pas. Eh bien, c'est Marjorie qui vous fait sa biographie.
Ah, la biographie de Lovecraft. Alors déjà, il s'appelait Howard Phillips Lovecraft. Et il est né le 20 août 1890 à Providence, vous savez, à Rhode Island. On aime bien vivre là-bas, généralement. Et il est mort le 15 mars 1937. Alors vous me direz, il n'a pas vécu bien vieux. Le pauvre est mort d'un cancer des intestins. Et c'est dommage pour lui. C'est un écrivain américain connu pour ses récits fantastiques d'horreur et de science-fiction surtout. Et son œuvre est absolument colossale. Pas loin de 37 romans de fiction, tout un tas de correspondances, des poésies, des essais. Et il a inspiré beaucoup d'auteurs, notamment grâce à sa correspondance qui était très nombreuse. Et lui-même a été grandement inspiré par ses terreurs nocturnes, en fait.
Alors, ce qui est très étrange avec Lovecraft, c'est qu'on parle effectivement d'une œuvre colossale. 37 ouvrages et beaucoup de poèmes, de poésie, de correspondance, c'est pas si exceptionnel que ça. C'est exceptionnel par rapport à la durée de sa vie, à la durée de son écriture, qui était plutôt courte. Il a écrit notamment en 10 ans énormément d'ouvrages.
Il écrivait deux romans par an.
Oui, Ludovic.
Un petit détail qui est assez rigolo à propos de Lovecraft, c'est qu'effectivement, il est né à Providence, il est mort à Providence, il a vécu toute sa vie à Providence, et on se moquait de lui pour ça, justement, parce que
il a même fait écrire sur sa tombe comme épitaphe « I am Providence ». Voilà.
Oui.
Alors c'est aussi un garçon qui a eu une enfance un petit peu compliquée, puisqu'il avait un papa et une maman, comme beaucoup de personnes, que son père est mort alors qu'il était relativement jeune. Et il est mort, on va dire, de folie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a chopé a priori la syphilis. Ça a duré très longtemps, c'était mal soigné, et du coup il a commencé à développer une psychose, son papa, il s'est fait interner dans un asile, et il a fini par mourir, alors à la fois des atteintes de la syphilis, mais aussi de ses problèmes de psychose, et ça, assez jeune, ça a évidemment marqué Lovecraft. Alors longtemps après, sa mère aussi est morte, morte, elle est morte de la même manière, c'est-à-dire qu'elle est morte aussi en ayant été avant internée dans un asile. Et donc ça, c'est des choses qui ont dû beaucoup marquer Lovecraft dans son enfance. Son grand-père maternel s'est aussi pas mal occupé de l'éducation de ce garçon et lui a raconté très tôt des contes gothiques, ce qui marque aussi, ce qui ancre aussi assez fortement dans l'horreur finalement ce jeune
garçon. Il a baigné dedans tout petit.
Ça n'a jamais été quelqu'un de sportif, quelqu'un de fort et quelqu'un voilà, en pleine santé. Il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes d'argent toute sa vie. Il n'a jamais été connu. Il a très rarement mangé à sa faim. Il a été publié, notamment dans ce qu'on appelait
des pulps,
c'est-à-dire c'est ce qu'on pourrait rapprocher le plus aujourd'hui des comics, c'est-à-dire des livres vendus pas très cher, voilà, que les gens lisaient comme ça, mais c'est pas un livre, mais c'est effectivement un magazine imprimé sur un papier de mauvaise qualité sur lequel il y a des récits intéressants à lire. Il a développé de lui-même une correspondance avec des auteurs très connus qui ont même repris ses œuvres et qu'il a beaucoup, beaucoup partagé et beaucoup échangé. Mais sa petite santé fragile, sa très grande intelligence aussi, puisque a priori il a appris à lire et à écrire dès 3 ans, à composer ses propres poèmes dès 6 ans, donc on est vraiment sur quelqu'un qui était extrêmement doué. Et puis il a vécu donc beaucoup avec sa mère et avec ses tantes, et donc ça a grandement influencé tout ça, sa vie. Et il a développé pas mal de petits problèmes psychiatriques, psychanalytiques, psychologiques. Notamment, tu le disais, Marjorie, des terreurs nocturnes qui, semble-t-il, ont inspiré très largement son œuvre. Alors l'œuvre, justement, Ludo, on va un peu en parler. On est à mi-chemin avec Lovecraft entre de l'horreur, de la fantaisie, du fantastique et de la science-fiction. Il y a un petit peu de tout ça en fonction des œuvres. Comme Pablo Picasso a eu sa période bleue, rose et puis le cubisme, il y a eu des périodes aussi, en tout cas les auteurs a posteriori ont référencé de manière par période en fait ces différentes publications. Le site onirique, je crois, le site du mythe de Cthulhu, il y a eu un cycle précédemment. Si tu devais décrire à nous qui ne sommes pas des lecteurs de Lovecraft un peu son œuvre, comment tu la décrirais, comment tu la présenterais?
Alors effectivement, je vais rejoindre un petit
après
peu...
Après cette phrase de 4 km de long, pardon.
C'est ça. Où déjà, tu me donnais des éléments de réponse, c'est ça qui est intéressant. en fait, effectivement, il y a 3 périodes qui ont été un peu définies, analysées par la suite. C'est la première période correspond aux histoires macabres, donc jusqu'à 1920, où justement, on peut dénoter vraiment quelque chose de très sombre. Par contre, ensuite, il y a le cycle onirique, qui, comme on l'appelle, parle beaucoup plus des rêves et qui se passe dans un univers qui est vraiment propre aux rêves, qui est complètement hors réalité. Et enfin, le mythe de Cthulhu, enfin, d'ailleurs qu'il n'appelait pas effectivement le mythe de Cthulhu, où justement on retrouve le panthéon un petit peu connu de ses œuvres, avec notamment Cthulhu, mais Yog-Sothoth, deux trois autres... petit gars bien sympa comme ça, ou justement, en fait, celui qui l'a finalement fait le plus connaître.
Ce qui est marquant dans l'œuvre de Lovecraft et ce qui est beaucoup retenu et diffusé aujourd'hui par la culture geek, cette espèce de cosmogonie ou de panthéon, en tout cas négatif, qu'il a créé, qu'on retrouve d'abord dans effectivement le cycle onirique, mais c'est dans un univers parallèle, et finalement dans le dernier cycle où là effectivement ces dieux négatifs se retrouvent incarnés dans notre propre univers et donc sont en contact de plus ou moins proche avec des humains. Et c'est plus ça encore qui a marqué finalement la culture geek, c'est ça?
C'est ça, en particulier le grand ancien Cthulhu, qui est une sorte de pieuvre avec des ailes géants, enfin une sorte de boule plutôt, voilà. Et effectivement, un certain panthéon, alors par rapport à d'autres auteurs comme Tolkien par exemple, on peut avoir vraiment une cosmogonie, un panthéon qui est vraiment très défini.
Avec une dichotomie du bien et du mal.
Aussi, oui, parce que là on n'a pas tellement de dichotomie, on a que du... Enfin, c'est même pas tellement de bien ou de mal, on n'a pas ce côté justement... on n'a même pas ce côté inique en fait.
Ce côté manichéen, oui.
Voilà. De ces grands anciens, c'est juste que pour eux, l'humanité, bah, c'est rien, quoi. C'est insignifiant, c'est comme les insectes pour nous, quoi.
Alors là, on va en revenir, Marjorie, du coup, effectivement, à la personnalité finalement de Lovecraft. On reviendra pour décrire évidemment l'œuvre et le contenu. C'est un personnage un peu fantasque, il faut le dire, qui se sent ancré à la fois dans le 18e siècle et à la fois dans le 20e siècle. Alors on rappelle, sa date de naissance c'est 1890, il a publié essentiellement entre 1905 et 1930-35, mais il se sent à la fois proche d'Edgar Poe au niveau de la littérature et au niveau des écrits un petit peu anciens, et à l'autre bout, il se sent extrêmement proche de tout ce qui est la science du début du XXe siècle. C'est aussi un athée convaincu.
Je pense que Lovecraft était un geek, en fin de compte, parce que dès que la science est arrivée avec toutes ces nouvelles découvertes, parce qu'on en a fait beaucoup à la fin du XIXe siècle, il s'est rué dessus comme s'il n'avait pas mangé depuis 15 jours, et il en a mis partout dans ses œuvres, et il s'en est beaucoup beaucoup inspiré. Mais en même temps, il avait une grande fascination pour Poe et pour ce côté très très noir en fait de l'écriture, qui lui correspondait plutôt bien, puisque c'était un garçon relativement noir dans sa tête, plutôt athée convaincu, même s'il se revendiquait comme agnostique, et en plus de ça assez raciste et assez bien posé sur les différences de classe entre les personnes. Voilà, un ouvrier, ça ne vaut rien.
Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la science, là où la science aujourd'hui est souvent fascination et est souvent optimisme d'une vie meilleure, d'un progrès, s'il voyait sans doute la science avec à la fois ce côté certes de progrès, mais qui donnait bien à l'homme la place qui semblait pour lui revenir. Et on sent un espèce de grand écart entre sa qualité de descendant d'anglo-saxon, ce côté wasp et ce côté effectivement raciste ancré aussi, avec à la fois l'importance de la race et de la classe sociale, c'est-à-dire qu'il faut être un blanc, il faut être un blanc d'origine anglaise, parce qu'un blanc hollandais ou un blanc allemand ou un blanc français n'a pas du tout la même qualité pour Lovecraft, donc il faut être un blanc anglo-saxon, il faut être un blanc éduqué d'une classe sociale relativement élevée, ce qu'il n'était pas, hein, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'il n'était pas quelqu'un de riche, il était quelqu'un de cultivé, bien sûr, très cultivé,
mais il était mais cultivé.
Pas quelqu'un de riche, et donc on sent qu'il a un désir de s'élever au niveau de sa condition sociale. Et du coup, la science pour lui ramenait l'homme finalement à la place qui lui semblait être juste dans l'univers, c'est-à-dire une place infiniment petite. Et donc on sent ce décalage entre finalement son athéisme, entre son racisme, entre son goût de la science et en même temps cette espèce de frayeur. On a l'impression que ça devait créer chez lui de finalement je ne suis rien, je ne sers à rien, ma place est moins que celle d'une goutte d'eau dans l'océan finalement.
Ludovic. Je ne sais pas tellement si c'est de la frayeur qu'on sent justement. Au contraire, enfin,
il est très rationnel. Pour les avoir lus,
ouais, c'est ça. Bah après, c'est pas parce que les narrateurs le sont que lui l'était.
Oui, mais généralement, ça veut dire des choses sur l'auteur.
Oui, après, mais par contre, une chose justement que je trouve qui est assez présente, c'est que c'est pas tellement il veut pas forcément faire peur, il veut faire prendre conscience. Ça donne vraiment ce sentiment-là. C'est pas le but, et c'est ça qui est assez particulier quand on lit Lovecraft. On sent bien que l'objectif, c'est pas d'effrayer le lecteur comme dans un roman d'horreur, ou c'est au contraire de lui faire prendre conscience que de l'absurdité de certaines choses, de la petitesse de l'homme. Et ce genre de choses.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, alors là on va faire un peu plus de philo et de psychologie, un paradoxe important entre son racisme, son goût d'être un descendant anglo-saxon, son goût d'une classe sociale élevée, donc son côté un peu unique et important, l'importance qu'il se donnait lui-même en entretenant beaucoup de correspondances et un cercle d'amis proches dont il avait beaucoup, dont il aimait beaucoup que ces gens reprennent en partie ce qu'il pouvait dire. Et en même temps, effectivement, ce sentiment de n'être rien parce qu'il était maigre, parce qu'il était malade, parce qu'il était petit, parce qu'il n'était pas un auteur à succès contrairement à d'autres. Est-ce que vous ne sentez pas vous-même un paradoxe qui se retrouve peut-être dans la littérature avec ces grands anciens et ces hommes qui deviennent fous dès qu'ils les côtoient ?
Alors après, sans faire de la psychologie de bas étage... Non, c'est moi là. C'est parce que je vais parler de ça. On peut considérer aussi que Lovecraft, bien qu'il soit, je pense, relativement alerte sur le fait que, une vie d'homme, ça passe à toute vitesse, que tous les éléments autour de lui resteront après lui, et que du coup, l'homme voilà, à une vie relativement peu intéressante au point de vue de l'univers en général, ça restait quand même un homme. Et l'être humain a besoin de se sentir important. Et du coup, c'est pas si étonnant que ça qu'il ait entretenu une si grande correspondance, qu'il ait eu des besoins d'améliorer sa classe sociale. Il faut quand même savoir que, à mon avis, les grosses différences qu'il faisait dans les classes sociales, pour lui, c'était plutôt une différence d'intelligence, surtout. Enfin, quand il le dit dans ses œuvres que les ouvriers sont idiots, ne servent à rien, c'est parce qu'ils n'ont pas la culture nécessaire pour... ils n'ont pas voilà, l'éducation. Alors que lui, là, au contraire, même s'il a pas d'argent, en fait, l'argent n'a aucune importance. C'est votre fortune intellectuelle qui compte.
On va en rester sur le paradoxe de l'artiste incompris avec ses, voilà, ses différentes petites choses, avec un titre qui s'appelle Everybody Loves Me. Voilà, un petit clin d'œil en contrepoint à Lovecraft. Et on parlera vraiment plus de l'œuvre après. On va beaucoup t'écouter, Ludo, parce que pour le coup, tu y en connais beaucoup plus que nous sur le contenu. Allez, on est de retour dans Génération Geek autour de l'œuvre d'H.P. Lovecraft, un monument de la culture geek dont on vous parle depuis maintenant plusieurs dizaines de minutes avec Ludovic et Marjorie. On a beaucoup parlé de l'auteur, de sa personnalité, de ses paradoxes, pourquoi pas même de ses problèmes psychologiques ou psychanalytiques, je ne sais pas. Le contenu de l'œuvre, Ludovic, si tu devais conseiller un livre, notamment sur Cthulhu, c'est lequel et qu'est-ce qu'on y découvre dedans?
Alors ça dépend du format et de ce qu'on veut, de ce qu'on attend dedans.
On entend beaucoup Cthulhu et ce grand ancien, c'est ce qui est le plus connu, ce qui a inspiré le plus d'autres œuvres de la littérature et des jeux vidéo et du cinéma geek. Alors du coup, moi je me dirais, j'ai envie de commencer par là, au moins pour connaître un petit peu ça. Qu'est-ce qui se passe quand je prends ce bouquin?
Alors techniquement, moi c'est pas forcément celui que je conseillerais en premier. D'accord, paradoxalement. Lequel tu conseillerais? L'horreur d'Innsmouth. D'Innsmouth, ouais, enfin voilà. Où en fait, on parle d'un chercheur qui. Enfin, d'un personnage, en fait, qui essaie de se renseigner un petit peu sur une ville qui, paradoxalement, paraît un petit peu neutre, silencieuse. Ça fait limite une ville fantôme, mais avec des gens dedans. Et il comprend pas trop ce qui s'y passe, et, etc. Il va enquêter. Et se retrouver en fait piégé malgré lui dans cette ville. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il se retrouve piégé par le hasard, quelque chose qui paraît complètement... oui, voilà, c'est le coup de pas de chance. Et en fait, il se retrouve piégé dans cette ville-là. Et justement, on ne sait pas si c'est sa peur ou si c'est quelque chose de bien tangible qui le pourchasse, en fait.
C'est pas quelque chose qui est... commun, c'est justement dans toute la littérature Lovecraftienne, justement, ce fait qu'il n'y a pas toujours des grands événements qui viennent emprisonner les héros ou les contraindre, mais parfois une forme de destinée et plein de petits hasards qui conduit toujours dans la même direction.
Alors c'est ça, oui, effectivement.
Et est-ce qu'il ne l'écrit pas? Parce que dans sa vie aussi, il a eu des similitudes énormes entre la mort de différents membres de sa famille, son retour constant à Providence, parce qu'il habitait un petit peu ailleurs autour, mais il a fini par revenir toujours au même endroit alors que ce n'était pas prévu comme ça au départ.
Là, effectivement, on retrouve ce côté de destinée, de destinée familiale. On voit bien que les personnages sont condamnés à vivre et à périr comme leurs aïeux, malgré tous les efforts qu'ils pourront faire.
Mais c'est pas la destinée du héros qui doit sauver l'univers, c'est plutôt il va se passer des trucs de toute façon et il t'arrivera toujours le même truc. Là, voilà, t'es coincé dans un chemin un peu unique. À ce côté-là, sans doute qu'on ressent.
C'est ça, qui est assez très oppressant. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que par contre, on le voit pas tout de suite. C'est pas quelque chose d'évident, de grossier. Au contraire, c'est quelque chose d'assez subtil et qui devient évident très d'un coup, d'un grand coup, d'un seul. Excuse-moi.
En fait, très clairement, les personnages de Lovecraft, ils n'ont aucune chance du début à la fin. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas d'espoir, en fait.
De toute façon, s'ils survivent, ils deviennent fous. Hein.
Oui.
Alors, justement, le personnage typique et le parcours typique d'un personnage Lovecraftien, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui est plutôt très rationnel et qui va enquêter d'une manière ou d'une autre sur un phénomène ou se trouver confronté d'une manière ou d'une autre à un phénomène, on va dire, paranormal, mais voilà, un peu hors du commun en tout cas. Et plus il va l'explorer, plus ça va être compliqué, c'est ça ?
C'est ça. Et souvent, alors, ce qui est assez intéressant, je dis souvent ça. Hein.
C'est pas grave, tu peux.
On échappe à son destin. C'est assez intéressant. Voilà, c'est ça, c'est mon destin de dire ça. En fait, c'est que la plupart du temps, le récit est fait rétrospectivement. Et au début du récit, on est toujours sur quelqu'un d'ultra rationnel, d'ultra rassurant par conséquent. On se dit, bah voilà, il va pas me mener en bateau dans son histoire. Voilà. Et petit à petit, on sent sa santé mentale s'effriter. Et on se rend compte qu'il lui est arrivé quelque chose qu'il nous raconte et il est toujours en train de dire j'aurais jamais cru ce qui va m'arriver, enfin ce que je vais vous raconter, etc. On finit par se rendre compte, c'est quasiment systématique, on finit par se rendre compte qu'il a tourné la carte et que en fait il est devenu complètement fou, complètement en fait il est vraiment passé de l'autre côté.
Et c'est progressif dans le style de l'écriture, c'est-à-dire qu'on ressent un style très rationnel au départ et le style s'effrite au moment de la lecture, ou est-ce qu'on comprend a posteriori qu'en fait, depuis le début, il nous raconte des trucs, mais que le personnage est fou ?
Non, c'est vraiment, effectivement, ça s'effrite au fur et à mesure qu'entre guillemets, il revit en racontant ces événements. Mais après, c'est vrai qu'on sent que, mine de rien, on sent toujours qu'il y a quelque chose d'un petit peu fragile dans le récit du narrateur.
Alors que Toulouse, pour le décrire, c'est un espèce de dieu géant, enfin en tout cas un personnage géant qui a une taille de dragon avec une tête de pieuvre et du coup les mandibules de pieuvre. Hein, si vous avez vu les Pirates des Caraïbes avec David Jones, ben voilà, ça ressemble à ça au niveau de la tête. Un crâne plutôt chauve, évidemment, une pieuvre n'a pas de cheveux. Des ailes de dragon dans le dos, une queue de poisson à la place des jambes et puis quelque chose d'absolument énorme. Et quand il le décrit, alors on dit bien Cthulhu, hein, et non pas Cthulhu, mais c'est écrit avec CH. Quand c'est décrit, en fait, plus les humains s'en rapprochent, plus les humains voilà, plus c'est compliqué, parce qu'il y a cette espèce de chaos déifié, en tout cas, qui forcément brise l'humanité, c'est ça ?
Oui, c'est un petit peu ça. En fait, Lovecraft expliquait ça en disant que l'esprit humain en fait, est fait de telle manière qu'il occulte les rapprochements ou les éléments qui vont trop perturber sa vision du monde. Il dit que c'est une force de l'esprit humain. Après, on peut dire que c'est vrai, pas vrai, ça c'est autre chose. Mais, et que du coup, en fait, en général, quand ils sont confrontés à un grand ancien, à des événements souvent propres justement aux événements qui se passent, la santé mentale de l'humain, en fait, il perçoit ne serait-ce qu'une une partie infime de l'infinité de l'univers et de la petitesse de l'être humain, en fait, ils ne peuvent pas supporter ça et du coup deviennent fous parce que justement ils en ont entre guillemets trop vu.
Mais c'est un mécanisme assez connu aussi de la pensée humaine, essayer de percevoir deux minutes l'infinité de l'univers, l'infinité du nombre de molécules qu'il y a dans l'univers. C'est quelque chose qui n'est pas possible de se le représenter pour un esprit humain. On le met en mathématiques, on a des symboles, on sait jouer avec le concept. Par contre, il est extrêmement compliqué pour un humain de voir une courte durée de sa vie par rapport à la durée du temps, de vraiment se la représenter, de se représenter le fait que la matière est composée de vide, en tout cas d'énergie principalement, et qu'il n'y a pas des trucs solides dans une table ou un meuble, que l'univers est absolument complètement vaste et qu'on n'arrive pas à le comprendre. La chaleur d'un soleil, c'est quelque chose qu'on peut concevoir, mais à représenter réellement, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et j'ai l'impression que Lovecraft se base un peu effectivement sur cette obligation qu'a l'esprit humain à mettre de la personnification de l'humanité et des dimensions à taille humaine pour rester cohérent, et que quand on veut vraiment aller au-delà de ça, c'est compliqué.
Je pense que dans ses rêves, ce cher monsieur a beaucoup rêvé à sa petitesse. En tout cas, la petitesse de l'être humain. Et du coup, ses rêves ont influencé un petit peu ce qu'il pensait.
Alors, on l'a dit, hein, il avait des terreurs nocturnes qui ont sans doute inspiré effectivement ses écrits. D'autres choses à nous raconter sur ses œuvres. On est sur quel type d'époque? Est-ce qu'il y a des époques un peu différentes? Est-ce qu'il y a un style victorien? Est-ce qu'il y a de la science-fiction, de la fantasy? Est-ce qu'on trouve des chevaliers? Est-ce qu'on trouve des Jedi? Ou est-ce qu'on est toujours dans l'univers qui, lui, est contemporain, en tout cas?
Toujours là. Je ne suis pas un bon histoire. Enfin, niveau histoire, je ne connais vraiment pas bien cette période-là. Mais il me semble bien qu'on est sur des époques qui sont contemporaines aux États-Unis de cette époque-là. Enfin, surtout à cette région-là. Par contre, des éléments assez inattendus, c'est qu'on va trouver la notion aussi d'extraterrestre. Finalement, les grands anciens, on voit par endroits que c'est des extraterrestres qui sont descendus sur Terre, qui, il y a très longtemps, gouvernaient le monde et se sont plus ou moins éteints. Donc, sont en sommeil.
Ou étaient enfermés, ou sont en sommeil.
Voilà, ou sont dans une autre dimension. Voilà. Et c'est notamment ce qu'on va voir dans Les Montagnes Hallucinées, où on va justement découvrir une cité ancienne. Ou dans des dimensions qui sont même pas concevables, ou notamment effectivement dans la partie où on découvre l'appel de Cthulhu, où justement on va découvrir la cité où dort Cthulhu et où justement on va voir des bribes de son réveil.
Alors, parmi les auteurs qui ont inspiré Lovecraft, on retrouve évidemment des auteurs qui sont très connus, parce que sa façon de décrire l'horreur et d'avancer effectivement comme ça, d'emmener le spectateur, enfin le lecteur en tout cas, avec lui, a été vraiment vraiment quelque chose qui a marqué certains grands auteurs. Je parlais de Stephen King, mais pas que. Maxime Chatham, on dit Maxime.
C'est ça.
Chatham.
Non, c'est pas Chatham.
Non, mais Graham Matterson également. Terry Pratchett a même parodié le mythe de Cthulhu. Toi qui es fan de Terry Pratchett, Ludo, tu as lu Les Zinzins d'Hollywood.
Ouais, effectivement, il parodie par ces créatures de la dimension des basses fosses, justement les créatures qu'on peut retrouver dans le mythe de Cthulhu. Après, comme Terry Pratchett a tendance à parodier tout ce qu'il aime bien, voilà, c'est normal que ça fasse partie du nombre.
Alors, il y a des jeux de rôle aussi, un jeu de rôle avec vraiment beaucoup de quantité de quêtes et de choses à faire qui sont inspirées du mythe de Cthulhu. C'est les éditions Sans Détour qui font ça, avec un très beau jeu de rôle bien illustré, avec des règles qui sont plus ou moins complexes selon votre goût du jeu de rôle. Mais il faut bien se dire que dans la culture geek, par bribes comme ça, vous allez voir souvent cette pieuvre qui est ailée, qui est Cthulhu, et tout ce qui vient un petit peu des mythologies, je veux dire des mythologies lovecraftiennes. Je rappelle qu'il n'a pas été vraiment publié, en tout cas massivement, de son vivant, qu'il n'a pas été connu de son vivant. Par contre, il avait effectivement un cercle d'amis proches avec qui il entretenait une très forte correspondance, qui, après sa mort, effectivement, ont partagé beaucoup et ont écrit des choses par rapport à ses œuvres. Au niveau de l'héritage aussi, c'est un peu compliqué parce qu'il n'avait pas d'enfant. Donc, son héritage a été un peu disputé entre sa tante d'une part et certains de ses amis d'autre part. Je vous encourage à aller le lire. Et je crois qu'avec Marjorie, on a été convaincus, Ludovic, qu'on va essayer d'ouvrir l'un des bouquins de Lovecraft et d'aller se plonger dans cet univers. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. On rappelle quand même quelques infos sur Génération Geek, sur les coordonnées sur lesquelles on peut nous retrouver, le site internet, la page YouTube, Facebook, tout ça, Marjorie.
Alors, le site internet www.generation-geek.com, génération avec un S, geek avec un S, pareil pour YouTube, pareil pour Facebook. Vous avez notre tout nouveau site internet, tout beau, tout propre, tout neuf, régulièrement mis à jour par nos célèbres experts que vous ne faites qu'entendre, mais que bientôt vous pourrez lire. Donc, venez nombreux.
Et puis voilà, les vidéos seront bientôt de retour aussi sur, sur la chaîne YouTube. On vous prépare plein de petites choses. On a même des projets d'édition, de livres, de jeux de société. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner. On vous retrouve en tout cas très bientôt. C'était un plaisir de passer ces émissions avec vous. À la prochaine. Salut.
Salut.